nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Des petites chaussures plates, noires. Mets ses cheveux en chignon. Prends un petit sac à main et sors de chez elle. Une voiture rouge de tourisme s'est approchée d'elle. La portière avant s'est ouverte. Elle s'engouffre dans la voiture. Sourit en regardant Maurice. Il lui dit, je me sens un peu en faute. C'est la première fois que je trompe ma femme. Il lui dit, après tout ce temps?
Oui.
Alors elle n'a pas à se plaindre. Il lui dit, nous montons chez vous?
Non,
je vous ai dit que c'était impossible. Il lui demande,
à l'hôtel?
Elle lui dit, je déteste ça. Il soupire et lui dit,
alors dans un appartement vide que je connais?
Elle lui dit, non, me risquerait de nous voir.
Dans votre bureau?
Il lui dit,
c'est pas possible, il y a les caméras, les vigiles.
Elle lui dit, mais vous êtes le patron? Il lui dit,
ça n'empêchera pas que l'on me juge.
Elle lui dit, eh bien, allons-nous promener en dehors de Paris? Il lui dit, bon, et elle met la voiture en marche. Direction sortie de Paris. est assise et ses jupes sont relevées très haut. En roulant, il orne ses jambes. Il lui caresse la main et lui dit « Ce n'est que notre premier rendez-vous. Après, nous verrons. N'allez pas trop loin. Pensez au retour. Que va dire votre femme ?»«
Bon, que j'avais à travailler. »
Et lui demande. Et si elle téléphone, il lui dit,
elle téléphonera à mon portable.
Elle sourit. Il prend la main et la lui met entre ses cuisses. Il a tout chaud. Au bout d'un moment, je vois un petit chemin là, à droite. Il va dans un bois, ce sera bien. Il y va. Il va arrêter sa voiture sous les arbres, dans un coin bien sombre. Éteignez les feux, c'est ce qu'il fait. Il allonge son siège pour qu'il devienne banquette et fait la même chose pour elle. Elle est allongée. Il se penche vers elle et lui caresse ses cuisses sous la jupe. Il a chaud, il a très envie. Cette peau si douce de 20 ans, à côté de celle de sa femme. Elle lui met la main sur sa braguette, sent que c'est dur, et lui dit « Attends, allonge-toi. » Il s'allonge. Elle se soulève, prend son sac qui est à terre, l'ouvre, ferme les yeux, par jeu, elle sort de son sac, une chose qui brille au rayon de la lune, se penche vers lui et d'un geste lui enfonce une seringue. Ah ! Ne bouge pas. Elle remet la seringue dans son sac. Lui tente le cou, le pouls, il vit. Vite, elle lui fait les poches. Toutes ses poches. Trouve son portefeuille, cherche. Trouve la carte rouge. Elle met dans son sac. Elle sort de son sac un carré de pâte à modeler qu'elle prend et qu'elle met sur son pouce, l'applique pour que la pâte lui prenne ses empreintes. Puis, elle prend délicatement la pâte et la met dans une boîte en métal pour qu'elle ne s'abîme pas. Si ce système d'ouverture aurait marché avec la reconnaissance de l'œil, ça aurait été plus difficile. Il aurait fallu photographier au laser 3D l'œil. Et une photo positive pour avoir de suite la photo. Une photo Polaroid, je veux dire, pour avoir tout de suite la photo. Une fois qu'elle a fait tout ça, elle sort de voiture. Elle sort de voiture. Va ouvrir la portière du conducteur. Et sort, Maurice endormi. Elle le dépose, ou plutôt le tire, vers le rebord du chemin. Dors bien, Fedoro Eve. Je viendrai te chercher. Puis, elle entre dans la voiture. Elle la met en marche grâce à la carte de Maurice. Et direction Paris. Place de l'Étoile, elle va s'arrêter une rue pas très loin du siège de la Franc-Blanc. Elle sort de voiture. Il va vers le siège. Fait le tour. Tout est éteint. Pas de garde. Rien. Il va vers les portes d'entrée. La principale et les autres. Il y en a une de chaque côté de l'immeuble. Les visites. Toutes les portes, puis va vers la porte principale, monte les marches. À droite de la porte se trouve le code à carte avec un écran. Elle met la carte dans la fente. Sur l'écran est marqué « Empreinte, s'il vous plaît ». Elle sort de son sac la boîte où il y a la pâte à modeler. Elle met la pâte à modeler contre l'écran. L'écran clignote et marque entrée. Elle retire la pâte à modeler, remet dans la boîte et prend la carte. Elle s'approche de la porte vitrée qui s'ouvre. Elle entre. Au fur et à mesure qu'elle avance, les lumières s'éclairent. Elle a chaud et se dit qu'un garde peut apparaître, mais elle est perdue. Arrive vers l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre tout seul. Elle entre dans l'ascenseur et appuie au dernier étage. Arrivée au dernier étage, elle sort. En sortant de l'ascenseur, les lumières s'éclairent. Tout est calme, silencieux. Elle longe le couloir. Et au bout du couloir se trouve le bureau directorial. Elle s'arrête devant la porte.
nuit, c'est le même dispositif que les portes d'entrée. Elle le refait et ça marche. La porte s'ouvre. Elle entre dans le bureau. Les lumières s'éclairent. La baie vitrée montre une vue de Paris noire qui plonge sur les bureaux. Pas de lumière, et avec de nombreuses lumières au sommet des grues qui tournent en permanence à cause des hélicoptères ou des avions. Elle regarde autour d'elle. Et voit le bureau. Elle s'assoit. Ouvre son sac. Et en sort une petite boîte. Il y a un tiroir au bureau qui est fermé à code. Elle se dit que ce doit être le même système que pour la porte, parce qu'il y a un écran. Elle met la carte dans la fente de... Oui, c'est la même chose. Puis les empreintes sur l'écran. Et le tiroir s'ouvre. Il y a dedans des disquettes. Inscrit dessus, projet secret et équipement. Elle prend les disquettes. Les met une à une dans la boîte qui est un copieur de disquettes rapides. Il copie les disquettes sur une mémoire qui concentre les informations. Cette machine a une mémoire pour disquettes qui peut mémoriser sur chaque disque, 100 disquettes, et d'une façon très rapide. Il suffit de pousser les disquettes dans la boîte, et elles sont mémorisées globalement. Sur toute la surface de la disquette en quelques secondes. C'est très rapide parce qu'elle le fait d'un coup. Sans faire un tour juste par bloc de disquette. Il n'y a pas de rayon qui sillonne la disquette, mais un gros rayon qui fait la taille de la disquette et toute la surface de la disquette et prend toutes les informations de coup. Ça va très vite. Et si une disquette pour 100 disquettes ne suffit pas, il y a des disquettes de rechange. Elle prend les disquettes et les enregistre sans savoir ce que c'est. Il ne lui reste plus
qu'une disquette. Elle la prend. Et elle sent dans sa main comme une décharge électrique. Décharge est montée jusque dans son corps. Elle est tombée, la tête la première, sur le bureau, raide, morte. Cette disquette avait une protection. Elle n'a pas reconnu l'empreinte de son maître. Alors un système de défense l'a fait décharger un rayon très puissant dans la main et en même temps a mis en route une alarme. Un bruit étourdissant dans tout l'immeuble. Les gardes qui sont au corgé voient sur une carte de l'immeuble que l'alarme vient du bureau du PDG. Parce qu'un homme s'inscrit sur la carte du bureau. Vite, tout le monde est prévenu et toutes les portes se ferme. Toutes les portes de l'immeuble se ferment. Les lumières s'éclairent. Gardes, armés de fusils et de revolvers, vont jusqu'au dernier étage du bureau, au bureau du PDG. Avec une carte spéciale. La porte est ouverte. Il entre. Il voit Brigitte, la tête la première, sur le bureau. Et les disquettes et l'appareil. Vite. Le garde prend le téléphone. Téléphoner au PDG chez lui. Un autre garde appelle la police. Allô? Ici le siège. J'aimerais parler à Monsieur Franblanc. C'est très important. Il est absent. Passez-moi sa femme. Allô, madame? Bonjour, madame. Pourrais-je avoir votre mari, s'il vous plaît? Elle lui dit...
Mais mon mari est au siège.
Non, madame. Mais il faut qu'il vienne au siège le plus vite possible. Il y a eu une tentative de vol dans son bureau. Elle lui dit.
Bien, je vais lui téléphoner sur son portable.
Elle décroche et fait le numéro du portable de son mari.
Il sonne longtemps. Ça le réveille. À moitié dans les vapes. Ne sachant où il est, ce qu'il fait. Il prend l'appareil qui est dans sa poche.
Allô? Oui?
Charlotte, mais où es-tu?
Il lui dit, eh bien, je sais.
Elle lui dit, ça fait longtemps, un long moment que je sonne. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais dit que tu allais à ton bureau. Où es-tu?
Il lui dit, je dois être à mon bureau.
Elle lui dit,
nous parlons de ça plus tard. Justement, ton bureau m'a téléphoné. Il dit une chose étrange. C'est qu'on a cherché à te cambrioler dans ton bureau. Et que c'est très urgent. Il faut que tu ailles tout de suite là-bas.
Il lui dit, bien, j'y vais.
Elle lui demande, mais où es-tu?
Je ne sais pas.
Elle lui dit, nous parlons de ça plus tard, à ton retour, si tu reviens. Elle est blonde? Rousse?
Il lui dit, je ne vois que du noir.
Elle lui dit,
croyez que tu préférais les blondes. Lâche-la, et va avec ton siège. Tout le monde t'attend. Allez.
Elle a raccroché. Il remet son téléphone dans sa poche. Regarde autour de lui, où il est. Voit qu'il est en rose campagne, sous des arbres, dans un chemin. Il se demande ce qu'il fait là. Il se lève avec difficulté. Il a encore sommeil. Regarde autour de lui, la campagne. Pas de voiture. Il se demande comment il a fait pour venir jusque-là. Fait quelques pas. Voit qu'il est à contrebas d'une route. Il s'y dirige. Arrive à la route. C'est une grande route, toute lisse. Elle est goudronnée avec quelques lampadaires. Elle est au milieu des champs, à perte de vue. Hésite et décide de marcher sur la route. Il fait nuit noire, mais heureusement, pour lui, il ne fait pas froid. Pendant ce temps, au siège, la police arrive. La police a constaté le vol des copies des disquettes. Les disquettes ont été remises à leur place. L'appareil a été pris par la police, mais avant, l'on a effacé les enregistrements. Puis, on a fouillé la fille. Vu la carte du PDG et ses empreintes sur la pâte à modeler. Ils ont trouvé la carte de la fille, l'ont mis devant l'écran et ont su qui elle était, nom, adresse, etc. Comme le président ne vient pas, Harold a été prévenu. Judith et M. Mercier de la tentative de vol. Ils sont venus voir. Le corps de la fille a été amené à la morgue, Maurice et Judith sont inquiètes de la disparition du PDG.
Jack est un gros homme chauve que tu gris. Il peut être arrivé quelque chose, le commissaire lui dit.
Il est adulte, il a le droit d'y disparaître quelque temps. Mais si demain matin il n'apparaît pas, je fais une enquête.
Charlotte, qui est venue au siège, lui dit.
Il m'avait dit qu'il venait ici. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Il n'a pas voulu me dire où il était, mais il m'a avoué qu'il était avec une noire. Surtout gardez ça pour vous, le commissaire lui dit.
Ça.
Au siège, téléphone à Gilbert pour l'informer. Il lui dit, j'arrive. Il arrive au siège. Il va vers sa mère. Il lui demande « Que s'est-il passé ?» Et elle lui dit
« Ton père a été cambriolé dans son bureau. Il a disparu avec une pulpeuse noire. »
Gilbert est surpris et demande qui est le voleur, vous l'avez eu? Elle lui dit
oui, et c'est une voleuse, ta Brigitte, celle qui draguait tous les hommes de la soirée. Elle a essayé avec ton père, mais ça n'a pas dû marcher puisqu'il est parti avec une noire. Tant mieux pour lui.
Ondes sont plus dangereuses.
Gilbert lui dit pauvre Julien. Qu'est-ce qui va t'être déçu? Et il va vers le commissaire. Et demande.
Le voleur, enfin la voleuse, c'était bien une femme?
Le commissaire le regarde bien et lui dit.
C'était pas un travelot.
Oui, mais était-elle une femme ou un robot?
D'après le médecin légiste, c'était bien une femme.
Gilbert dit. Pauvre Julien, il aurait peut-être mieux valu que ce soit un robot.
Le commissaire fait. Quoi?
Gilbert lui dit.
Rien.
Encore. Pauvre Julien. Lorsqu'il va savoir ça, Charlotte demande au commissaire.
Vous allez continuer votre enquête?
Il lui dit.
Oui. Nous allons aller chez elle et voir l'entreprise qui l'employait. Avec mon appareil, ça va peut-être nous expliquer ce que c'est comme entreprise. C'est de l'espionnage industriel.
Pendant ce temps, Maurice marche sur la route, droite et raide, vide de circulation. Il a la tête vide, il ne pense même pas à téléphoner pour qu'on vienne le chercher. Avoir un téléphone, il peut donner des ordres à un correspondant. Dire où il est. Le téléphone l'indique où il est. Le téléphone du correspondant, si celui qui a appelé le veut. Et Maurice a la tête trop embrouillée pour penser à tout ça.
Le produit de la piqûre fait encore son effet. Il marche doucement, essoufflé. Il sait qu'il doit être chez lui. C'est tout. Tout à coup, il voit arriver une camionnette. Il fait de grands gestes pour qu'elle s'arrête. La camionnette s'est arrêtée. Toute blanche. Un homme est au volant, casquette et cigarette à la bouche. Casquette, visage rond, cheveux gris, en broussaille. Il n'est pas très grand, un peu crapu. Porte un blouson de cuir noir, un pull de laine gris, un pantalon à toile grise. Il ouvre la portière.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Maurice lui dit.
Vous allez à Paris ?
L'homme lui dit.
Si tu veux,
tiens, entre. L'homme ouvre la portière de l'autre côté. Maurice entre. Et l'homme met son camion en route. Fait demi-tour. Il y a Maurice. D'habitude, je ne prends pas des gens comme toi. On rencontre surtout des jeunes. Mais j'ai presque fini ma nuit et j'ai rencontré personne. Alors, qu'est-ce que tu fais la nuit, toi, sur cette route ?
Maurice lui dit, je ne sais pas. Je me suis réveillé là.
L'homme lui dit, c'est pas plus mal. Moi, c'est Franck. Et toi,
Maurice.
Franck lui dit, ça fait plus de 30 ans que je fais les livraisons. J'en ai un peu marre. Toujours rouler la nuit. Ma femme et moi, on en a assez. On aimerait bien vivre comme tout le monde. Ah, si la retraite existait, ça prendrait de suite. Les marins. Mais sur les quais, c'était bien la mafia. Alors j'ai arrêté et trouvé ce boulot. Et toi ?
Maurice lui dit, moi, je suis dans le bâtiment.
Franck lui dit, ah, le bâtiment, c'est difficile aussi, très pénible.
Maurice lui dit, oui, très.
Tu vis seul ?
Non, j'ai une femme et un enfant.
Franck lui dit, moi aussi j'ai un fils, mais la foutue de camp, soi-disant que je le dégoûtais, ça dégoûtait le travail que je faisais. Ces jeunes crachent toujours dans la soupe. Ils dénigrent ceux qui travaillent, qui font un sale travail, un travail dur, mais ils sont bien contents d'en profiter.
Et pourtant, livreur, c'est pas dégoûtant.
Franck lui dit, pour ça, vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous voulez avec eux ? Il m'a dit que j'étais pire qu'un bourreau. Moi, un bourreau ? Est-ce que j'en ai l'air ? Je ne sais même pas tuer une poule.
Maurice lui dit, c'est comme mon fils. Qui lui n'aime pas ce que je fais.
Et il continue à rouler. Il n'y a que sur les routes. Maurice voit un panneau. Paris, 70 km. Il dit,
j'ai fait tout ce chemin. Ce n'est pas possible.
Quand on marche, on ne se rend pas compte des kilomètres que l'on fait, surtout la nuit. Et il continue à rouler. We'll be right back. Tu vois un arrêt routier, Franck dit. Tiens, on va s'arrêter pour prendre un café.
Et il va arrêter sa camionnette devant l'entrée du café.
Camion. Ils vont rentrer dans le café.
Café routier, il y avait des lumières à l'américaine, et la pièce est verte,
vaste.
Il y a quelques clients des routiers qui boivent et mangent. Ils s'assoient à une table. Le serveur vient vers eux, un gros et fort homme chauve. Franck lui dit, comme d'habitude, deux cafés bien forts pour moi.
Maurice lui dit, moi aussi.
Franck lui dit, attention, attention. Le serveur va leur chercher leur café. Franck dit, tous les matins, je m'arrête ici pour prendre mon café avant le retour. À la boîte.
Maurice demande, quelle boîte?
Il me dit, tu verras, elle n'est pas loin, bien loin d'ici. Viens les servir. Il pose les cafés.
Maurice dit, c'est moi qui paye.
Il sort sa carte, le serveur lui prend, la met sur l'écran et la lui rend. Il demande à Franck, c'est...
Oui.
C'est bien. Tu te lances dans la quarantaine maintenant. Attention, Franck, tu vas perdre ta prime si tu livres que ça.
Franck lui dit, j'ai rien trouvé d'autre ce soir.
Garçon lui dit, pourtant, tu aurais dû rester en ville. Hier au soir, au lieu de battre la campagne, il y a eu des concerts rock un peu de partout.
Ça circulait dans tous les sens. À Paris, j'en ai vu des 12-15 ans, première qualité.
Franck lui dit, c'est mon chef qui m'a dit d'aller par là.
Il m'a eu, il m'aime pas, il m'a envoyé dans le désert. Mais je ne reviens pas les mains vides, non.
Le serveur hausse ses épaules et lui dit, en triant bien, on peut trouver des trucs. Et il s'éloigne.
Maurice demande, qu'est-ce qu'il voulait dire?
Franck lui dit,
métier, tu comprendras plus tard.
Termine le café et sorte du café.
Et ils entrent dans la camionnette. Ils entrent dans la camionnette.
Et il la met en route.
Il dit, on arrive bientôt. Presque.
À Paris.
Presque.
Et il roule. Le jour commence à se lever.
Franck lui dit, je suis un peu en retard, je vais me faire enguirlander.
Maurice lui dit, c'est ma faute, je m'excuse.
N'est pas grave, allez, on y va.
Et il roule pendant un moment. Ils arrivent dans une zone industrielle. Voilà, on arrive. On sort de la route principale pour prendre une petite route boisée. Et va arrêter la camionnette devant un mur qui a un portail. Il sort de la camionnette et sonne au portail. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.